Histoire d'un village. Aujourd'hui, nous allons découvrir Prévinquière avec Denis Trouche, une émission proposée par Caroline Falipou. Denis Trouche, ancien instituteur, maire de la commune de Prévinquière de 1989 à 2008, mais aussi historien. Il se souvient ici de son enfance à Prévinquière.
J'ai connu Prévinquière plus vivante au point de vue économique qu'aujourd'hui. Le cœur de Prévinquière, autour de l'église, il y avait sur cette place de nombreux commerçants et artisans, deux cordonniers, un boulanger, deux auberges, ce qui était à l'époque une droguerie. Il y avait là une vie animée particulièrement même les jours de semaine et surtout lors des foires qui existaient encore à l'époque. Il y avait deux foires importantes à Prévinquière. C'était celle du 2 janvier, où on vendait les porcs gras, et celle du printemps, qu'on appelait la foire aux plantes, c'est-à-dire où les maraîchers de la vallée du Lot venaient vendre les plants pour la saison estivale, tout ce qu'on repiquait, les choux, les betteraves, les salades, etc. et tout. Voilà donc là une animation qui est oubliée aujourd'hui. Alors de l'autre côté, sur la rue principale, sur la route de Compolimat, il y avait là la forge dont il reste l'atelier, mais il y avait là devant ce qu'on appelait le travail, qu'on a déplacé au fond du village, où on ferrait les bœufs, les vaches surtout, et qui était évidemment l'un des endroits les plus animés du village. Le forgeron avait coutume, le dimanche à l'auberge, de prendre les rendez-vous pour le travail de la semaine. Alors là, devant cette forge, c'était une accumulation de matériel qui dormait parce qu'il était forgeron. Il réparait aussi les outils agricoles. Alors il y avait là des charrues, des outils, des comme ça, à forger, à réparer, et qui s'entassaient devant et qui mangeaient à peu près la moitié de la rue, laissant à peine le passage pour deux chars se croiser. Qu'aujourd'hui, évidemment, tout ça, cet amoncellement qui était un peu hétéroclite, il faut bien le dire, mais enfin, et qui reflétait la vie de l'époque. C'était un signe d'encombrement, mais un signe en même temps d'activité. Plus loin, si on allait s'enfoncer un peu, il y avait un sabotier où sa boutique s'ouvrait, travaillait à demi-jour, et bien souvent, on le voyait travailler de sur la rue. On pouvait le voir faire ses sabots. Mais on y faisait pas, mais ça suffisait pas à le faire vivre, alors il était en même temps couvreur. Et il faisait partie de cette dynastie de couvreurs, les Coudères de Mirabel. C'était une lignée de couvreurs de père en fils et qui avait dans la région une très grande réputation d'excellents ouvriers. Déjà, voyez le cœur de la ville des plus animés.
Il y avait aussi une fontaine.
Alors, la fontaine était un peu plus loin que le sabotier. Alors, c'était le lieu, évidemment, où on allait chercher son eau. Alors, on l'avait fait mettre, quelque chose de très moderne à l'époque, une roue à godet qui permettait de remonter l'eau quand elle n'était pas en surface. Parce que bien souvent, elle avait tendance à déborder et cette eau était canalisée et allait alimenter une mare qui était devant chez Christian aujourd'hui, vous voyez. Bête allait s'y ébrouer, les oies, comme ça. Quand un cochon s'échappait, il allait évidemment plonger là-dedans, là. C'était là. Alors, j'essaie de montrer l'animation qu'il pouvait y avoir, si vous voulez, au quotidien. Alors, en continuant, on arrivait à la place devant le fond du village où il y avait le lavoir. Et là encore, scène d'animation, un abreuvoir pour les bêtes, et à côté, le grand carré où on réservait au lavage du linge. Alors, l'alimentation de cette lavoir venait de la fontaine qui existe encore aujourd'hui, qui avait été captée, qui se trouve au pied de la grange, là, une fois en retrait, et on avait capté cette eau qui alimentait ce bassin. Et alors, bon, les troupeaux, en revenant ou en partant, les bêtes pouvaient venir s'abreuver à la partie qui était réservée aux bêtes. Alors c'était un autre endroit d'animation du village.
Et au niveau scolaire, hein, il y avait plusieurs écoles à l'époque.
Alors, à l'époque, il y avait l'école du Bas, qui avait été, au début du siècle, une école de filles, qui avait donné lieu à bien des affaires entre eux, car elle avait été bâtie à partir des fonds publics, mais elle voulait rester privée. Et à l'époque, ça a fini devant la préfecture, avec mise en cause du maire de l'époque, qui avait utilisé des fonds publics à des fins privées. Et ils avaient voulu maintenir des religieuses comme institutrices. Et au moment de la séparation de l'Église et de l'État, tout ça a éclaté. Et il a fallu qu'une troupe de gendarmerie vienne déloger les sœurs pour y installer une institutrice publique. À l'époque, ça a fait, évidemment, ça a eu des retentissements. Et alors, dans la commune, j'ai encore les rapports de gendarmerie de l'époque, et la lettre préfectorale. Alors après, c'est redevenu une école publique et réservée aux grands. Et l'école du haut était réservée aux plus petits. Mais celle-là avait été bâtie sur un terrain acheté par la commune et bâtie avec des fonds publics à l'époque. Celle-là, c'était la vraie école, et l'autre avait été une école avec une histoire un peu tourmentée. Après la guerre de 14, tout ça, ça avait été oublié. Et suite à ça, quand il n'y a plus d'école religieuse, il y a eu une tentation. Quand le château s'est vendu, ça a été acheté par des sœurs qui y ont fait une école libre de filles, et ce qu'on appelait le couvent. Il y avait trois sœurs à l'époque qui enseignaient. Il y avait tout le haut qui était aménagé en dortoir, disons. Il y a eu une tentative d'avoir une école libre de garçons. C'était en 1911. Et cette école avait été construite sur la grange. Tout en la dernière maison de la grange à l'heure actuelle d'aujourd'hui a été cette école libre de garçons. Alors ça n'a pas duré longtemps. La guerre de 14 est arrivée. Le maître qui était là, c'était les frères des écoles chrétiennes qu'on appelait à l'époque, a été mobilisé, ils n'ont pas trouvé de remplaçant, et l'école a fermé. Donc ne subsistait après, ou, disons, en entre-deux-guerres, l'école du bas, l'école du haut et le couvent. Il y avait quelques filles, des laïcs convaincus, qui ne voulaient pas envoyer leurs filles à l'école des religieuses. Après la guerre, tout ça s'est... Les sœurs ont dû abandonner l'éducation, tout ça. Tout est redevenu une école laïque avec deux emplacements, celle du haut, celle du bas. Tout ça, évidemment, aujourd'hui, est un peu oublié.
période de la guerre à Prévinquière a été vécue comment?
Eh bien, là, à l'époque, il faut bien se souvenir que dans les campagnes, le désastre de 40, si vous voulez, a laissé un peu tout le monde abasourdi. Nous étions dans la zone libre, ce qui faisait que l'État français avait, si vous voulez, des directives assez précises, parce qu'on a connu quand même une période relativement calme dans nos campagnes. On a vu affluer quelques réfugiés chassés par l'Exode. Ils sont restés là, disons, l'été 40. Mais l'époque a été relativement calme, si vous voulez, jusqu'en 42-43. C'était l'époque où on avait remplacé le service militaire par les camps de jeunesse, qui étaient faits un peu pour, le mot est un peu fort, mais enfin, un peu embrigader les jeunes. Et ici, les camps de jeunesse allaient dans l'Hérault. Les souvenirs qui m'ont été rapportés dataient de cette période. Et à partir de 42, lorsque la zone dite libre a été occupée, alors là, on a vu les Allemands vraiment arriver. Et alors là, l'atmosphère a été beaucoup plus troublée. Est venu par la suite le STO, le service de travail obligatoire, qui s'est un peu substitué au camp de jeunesse. Et il fallait que les jeunes aillent faire une période de travail en Allemagne. Et alors là, la période qui avait été relativement calme, parce que les camps de jeunesse, bon, ça se déroulait en France. Mais là, ça a été considéré un peu, est-ce que c'était en réalité une déportation? Et alors là, toutes les familles ont presque toutes été plus ou moins touchées par les jeunes qui devaient partir. Mais très tôt, on a essayé de parer, de les cacher, de ne pas les laisser partir. Et c'est là où a commencé le maquis de Prévinquière, où il y avait déjà un maquis, mais qui était surtout constitué par des gens qui étaient pourchassés par les Allemands avant le STO. Et quand le STO est arrivé, ce maquis va se trouver renforcé par toute une population de jeunes autochtones qui vont aller se joindre à ces maquisards. Ce maquis va, de 43 à 44, grossir avec un effectif très important et qui va s'installer donc dans les gorges de la petite rivière, qu'on appelle le ruisseau du Gaugiran, en marge de Prévinquière, à cheval, entre Prévinquière et Rignac, sous le village de La Roque. Ils vont s'installer là et ils vont construire des abris provisoires, comme ça, un peu rustiques, durant toute cette période, jusqu'en 44, jusqu'au moment de la libération. Alors avec, évidemment, une certaine peur, car c'est les premiers habitants du maquis n'étaient pas des gens d'ici. C'était des gens, des apatrides, même des Allemands qui avaient été poursuivis par des Allemands. Il y avait des Polonais, il y avait des républicains espagnols, et il y avait là des gens qui n'étaient pas en règle, poursuivis par la police française. Il y avait en partie des Juifs. Et évidemment, cette population un peu bigarrée a été en début en hostilité, avec des soupçons, on ne savait pas trop à qui avait... Et on leur avait donné le nom, déjà à cette époque, de terroristes. Donc une certaine opposition. À l'époque, toutes les nouvelles étaient transmises en chaire par le curé. Alors eux, ils faisaient que transmettre ces directives qui venaient du gouvernement. Et il y a eu une période de flottement qui n'a pas duré un an, mais presque comme ça, où la population était un peu montée contre les étrangers qu'on présentait comme des terroristes. Quand le STO est arrivé, que leurs enfants sont allés se réfugier là, l'opinion de la population a complètement basculé. Ça a été une période difficile parce que il y a des gens plus anciens qui se sont pas laissés convaincre tout de suite, qui n'y croyaient pas, c'était des idées de jeunes, et ça a laissé des traces. ceux qui s'étaient un peu opposés à cela se sont fait mal voir par la suite. Au bout de quelques années, ça s'est estompé. Cette période-là a été volontairement oubliée. On n'a plus voulu trop en parler. Enfin, ça a été vraiment une période troublée. Alors le maquis du Guesclin, maintenant, évidemment, les derniers survivants ont entre 85 et 90 ans, 95, on a essayé de retrouver l'histoire. Et alors, une des plus grandes manifestations a été le cinquantenaire, en 94, qui s'est fait dérouler à Prévinquière, où là, on a fait une grande manifestation. On a réuni, à l'époque, il y avait encore plus de 150 personnes. Et là, j'ai senti vraiment qu'il y avait des gens se retrouvaient. Ils ne s'étaient pas vus depuis de nombreuses années, là. Et là, j'ai pu voir l'éventail, parce que ça se faisait sous l'égide de la municipalité de Prévinquière, où j'ai pu voir tout l'étendue et la variété de ces résistants, qui n'étaient pas évidentes. Il y avait même des Roms, vous voyez, dont on parle aujourd'hui, et qui avaient fait partie de ces gens pourchassés. Vous voyez un petit peu, donc tout l'éventail qu'il y avait, le recrutement forcé de ces gens-là. Ça me donnait l'image de ce qu'avait été la résistance.
Amis, entends-tu le vent noir des corbeaux sur la plaine? Amis, entends-tu les cris sourds des pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.
Population au recensement de 1886 où on a atteint près de 420 000 habitants. Aujourd'hui, nous en sommes, à peu près au dernier chiffre, à 170 000. Donc tout ça, où sont-ils partis? L'exode a commencé quand même assez tôt dans nos régions, à partir de la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire vers 1860. Déjà, pas mal d'Aveyronnais, quelques-uns, sont montés, comme on disait à l'époque, on dit encore, montés à Paris, descendus dans le Midi, du côté de Marseille-Toulon, et quelques-uns beaucoup plus loin, vers l'Argentine, vers l'Amérique. Et ce mouvement d'émigration ne s'est pas interrompu, mais a connu des périodes de poussée plus importantes. La poussée la plus importante s'est faite après la guerre de 14. La guerre de 14 avait saigné à blanc nos campagnes et beaucoup de fermes se sont retrouvées sans bras. La guerre de 14 avait permis à une population qui était vraiment avec des habitudes rurales, les soldats qui sont revenus en ont vécu d'autres choses. Et ça a vraiment transformé les mentalités. Nous étions dans une région relativement pauvre, au point de vue ressources, qui suffisait à peine, et les familles encore étaient très nombreuses. Si on remonte à simplement une génération, les familles de 6, 7, 8, voire 10 enfants étaient courants. Donc tout le monde ne pouvait pas rester. Et on a assisté à une transformation du monde agricole. C'est-à-dire que ce qui avait été jusqu'alors fait à bras se trouvait remplacé par des machines. Et alors là, la main-d'œuvre agricole va être de trop. Et il va falloir trouver du travail et tout ça va partir donc vers les usines de Paris, de l'Île-de-France. Et on va avoir notre population déclinée. En 1880, il y avait 1000 habitants à Prévinquière. Et on va tomber au lendemain de la guerre de 14 à 600 habitants. La dépopulation a été plus importante après la Deuxième Guerre mondiale. Car là, on va avoir dans nos campagnes, qui avaient du retard par rapport, dans le monde agricole j'entends, le tracteur. Ça va être, quand je parle après la guerre, vous aviez encore les deux tiers ou les trois quarts des fermes qui travaillaient avec des bêtes, c'est-à-dire une paire de bœufs, une paire de vaches, etc. Les tracteurs étaient relativement rares. 1960, on va compter les paires de bœufs. En 10 ans de temps, si vous voulez, on va avoir l'arrivée du machinisme agricole. Et alors là, évidemment, seulement ce machinisme ne travaille que sur des terrains relativement plats, relativement. Et dans nos pays, évidemment, accidentés comme serait-ce que Prévinquière avec sa vallée, sur Prévinquière, vous avez un tiers de la commune qui est sur des pentes, et des pentes raides, où le travail au tracteur est pratiquement impossible. Donc les façons culturales, l'arrivée de la mécanisation a vu, si vous voulez, toute une série de petites exploitations vouées à disparaître. Et elles sont disparues. Et donc là, ça explique, là, il fallait trouver du travail ailleurs. Et on a eu quand même jusqu'à 1970 à peu près. Et là, il s'est produit un phénomène, c'est que le chômage a augmenté dans les villes dans une forte proportion. Et on n'était plus désormais assuré de trouver du travail en s'exilant. Donc à partir de 1980, on a eu un revirement où les jeunes se sont dit « il faut, si on veut vivre, rester au pays et trouver d'autres créneaux ». Et là, il y a eu un ressaut de la population qui était « Biural País » et ça a été vraiment un arrêt dans la dépopulation. Et depuis cette période, 80-90, si vous voulez, on insiste à un maintien de la population. Nos campagnes, avec une proportion plus forte de jeunes qui sont restés, il y a eu aussi dans les campagnes des spécialisations du travail, je pense surtout les aides à domicile, etc. Le mari est agriculteur, la femme a un travail à l'extérieur. Et bon, se trouve dans ce qui est soins, ce qui est secours aux personnes, qui a, pour l'instant, là, si je fais le bilan d'aujourd'hui, qui maintient un certain équilibre dans les ressources. Voilà où nous en sommes pour le moment.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des burettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie.
C'était Histoire d'un village, Prévinquière, émission proposée par Caroline Falipou. Merci à Monsieur Trouche pour son aimable collaboration.
Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.